Voilà, bonjour à vous Ronald Bustamante. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour Dylan.
Donc vous faites partie de, vous avez, ou vous êtes le fondateur, je ne sais plus, de cette association Amérique latine, culture et liberté fondamentale.
Oui, en effet, cette association est née ici à Digne, et à l'époque il s'appelait Casa Latina. Et puis on a fait des activités pour la fête de la lavande, et il y a eu des artistes, on était même responsable de la partie dans l'exposition qu'il y avait sur les sujets de l'Amérique latine. Tout d'abord, je veux remercier Fréquence Mistral pour cet espace qui nous permet d'exprimer nos points de vue sur la situation actuelle de l'Amérique latine. Et puis, très content aussi, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des émissions, mais tous mes remerciements à Odile qui nous accueille et avec qui on va faire cette émission.
Voilà, parce que c'est important de parler de la situation. Voilà, vous aviez donc prévu de nous parler de trois points importants pour cette émission, si vous voulez détailler le plan que vous avez construit.
Oui, c'est parler un peu du 12 octobre 1492. Donc, il y a 533 ans, puisque d'un côté, on appelle les découvertes d'Amérique et que nous appelons les commencements de l'invasion coloniale, duquel on n'est pas encore sorti. Donc, ça, c'est un point. Un deuxième point, ça va être un événement qui a eu les 80 anniversaires des Nations Unies, dans lesquels le président, les représentants du pays, des différents pays sont intervenus. Nous voulons aussi signaler comme important la présence, l'intervention du président Petro de la Colombie, et l'intervention du président Lula du Brésil, qui parlent de la importance de la souveraineté. Ils ont parlé de Gaza et puis de la multipolarité. Et un troisième point, et peut-être le plus important, c'est comment l'Amérique latine, l'économie et la politique de l'Amérique latine est liée aux besoins des grandes entreprises minières, pétrolières, extractivistes du monde, et en particulier sur la politique des États-Unis, qui considèrent toujours l'Amérique latine comme sa cour arrière. Il y a des pays comme le Brésil, la Colombie, Cuba, Venezuela qui essaient de s'en sortir de cet engrenage. Mais d'autres pays comme le Pérou, l'Équateur, l'Argentine, Salvador, etc., qui continuent dans cette situation, ils parleront du Pérou parce qu'il y a une contestation tellement forte que la présidente du Pérou a été limogée par le Parlement. Et ce n'était pas une conquête révolutionnaire. Donc, on va parler de ces trois points.
voilà cette première musique de El Condor Pasa pour cette introduction à cette émission spéciale. Donc, vous allez nous parler, Ronald Bustamante.
Oui, on a écouté Condor Pasa. C'était une musique ancestrale. C'est presque l'hymne national pour les Péruviens, créé par M. Alomías Robles. Et que, on voit que ça fait le tour du monde. Voilà. Et alors, les 12 octobre, pour nous, c'est une date de rencontre des deux parties du monde qui ne se connaissaient pas, qui ne se fréquentaient pas. Et même qu'ici, en Europe, ils ignoraient l'existence de tous ces continents. Aujourd'hui, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et M. Christophe Colomb, qui c'était le navigant qui avait cette mission d'aller, qui cherchait l'Europe, la voie de communication et de navigation vers l'Asie, il croyait avoir rencontré des îles de l'Asie, quoi, des Landes, et de là vient le nom des Andiens, qui continue jusqu'à aujourd'hui, on nous appelle les Andiens, alors qu'on n'avait rien des Landes. Et bon, c'était une rencontre d'une partie du monde qui avait passé déjà par l'esclavagisme, par la concentration des pouvoirs et la stratification sociale, créer une noblesse des différents pays, avait passé par la Grèce, l'Égypte, la Rome, et puis à la chute de Rome, différents États qui se sont créés, dont l'Espagne, France, l'Allemagne, etc. Et donc, il y avait cette rencontre, c'était d'une partie cette civilisation, et de l'autre partie, les peuples qui ont continué, qui ont développé, qui avaient leur propre développement et qui ont conservé la façon collective de travailler, de produire, de vivre. Et donc, il y a eu à différents niveaux, il y avait les Incas, et avant les Incas, c'était les Nazca, et puis plus au nord, c'était l'Aztèque, les Toltecs, les Mayas, et les Iroquois en Amérique du Nord, jusqu'au Canada, actuel Canada, de différents groupes, mais qui, en commun, il n'y avait pas cette notion d'esclavagisme, même pas la notion d'État, de contrôle, de noblesse pour une minorité. Donc, quand M. Colomb y rencontre, il est accueilli dans une île du Caraïbe par un de ces groupes, les gens, avec leur esprit, il accueille, il se demande avec l'esprit de en quoi on peut vous aider, vous venez d'arriver, et essaye de leur fournir de la nourriture, l'alimentation et tout ça. Mais M. Colomb, quand il écrit ses lettres, parce qu'il est à la reine d'Espagne, parce qu'il était envoyé par l'Espagne, pour lui, c'était une population très facile à dominer et à créer des colonies dans cet espace. Donc, d'un côté, la population qu'il accueille avec une mentalité d'appui, de soutien, et de l'autre, une mentalité qui voyait une invasion et des colonies, ce qui s'est produit. Et donc, ensuite, pour ne pas trop approfondir sur ça, il y a eu en effet, l'Espagne et le Portugal, ils étaient les premiers à débarquer dans ces terres. Ils sont vus immédiatement, pas très longtemps, que ce n'étaient pas des terres de l'Asie. Et avec des critères de décolonisation. Ils savaient qu'il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Et en effet, l'Empire Inca, ou l'Empire, la civilisation Inca et d'autres civilisations, ils avaient l'or, l'argent, qu'ils utilisaient plutôt à des moyens décoratifs. Alors que pour l'Espagne, c'était la richesse à exploiter à fond. Donc ils ont créé. Et c'est le commencement, c'est 12 octobre, le commencement d'une colonisation qui a signifié la division des territoires. Après, c'est les Anglais qui ont entrepris, qui ont débarqué aux États-Unis, au actuel territoire des États-Unis, même le Canada, les Français, et tout ça. Et donc, tous les continents ont été envahis et colonisés. Alors, il y a eu des guerres d'indépendance, des luttes d'indépendance. Et le Pérou, par exemple, il y a eu son indépendance plus de 1200 ans, il y a, en 1821. Et d'autres, ils sont créés des différentes républiques, tous les États qu'aujourd'hui on voit, le Chili, l'Argentine, l'Équateur, le Mexique, etc. Mais dans les classes dominantes, ils ont continué avec cet esprit des bénéfices pour une minorité, pour des élites qu'ils ont créées, tout en lien avec les puissances de l'époque. Ce n'était plus l'Espagne, donc c'était l'industrialisation, c'était l'Angleterre qui avait besoin des matières premières, donc pour l'industrie, la France aussi. Et ces élites se sont mis à travailler avec eux dans la continuation d'une politique presque coloniale. Je dis presque parce que formellement, c'était des États indépendants, mais leur économie et la production continuaient à être à leur service avec une oppression des populations. Donc la féodalité continuait, l'esclavage des populations ancestrales continuait et a continué jusqu'à ça fait pas très longtemps. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de traces de ces servages, de ce travail gratuit qui continue à exister. Et donc, quel bénéfice il y a eu? Les bénéfices pour les puissances occidentales, européennes et après nord-américaines, c'était parce que ça leur a permis d'avoir plus de matières premières, ça leur a permis d'avoir de l'or, de l'argent, et du cuivre, des plantes qu'ils ne connaissaient pas. Il faut dire que dans les populations ancestrales de l'Amérique latine, ils avaient développé beaucoup la recherche et l'amélioration des plantes. Donc, la patate, la pomme de terre, bon, les tomates, le quinoa qui est rentré en France, je crois, depuis 20 ou 30 ans, pas très longtemps, le maïs, la citrouille. On dit que 75% des légumes qui sont dans les assiettes au niveau mondial, ça vient justement de cette travail de recherche et d'amélioration des populations ancestrales de l'Amérique latine. Par contre, on n'avait pas les bétails, les moutons, les vaches, il n'y avait pas là-bas. Ils sont venus avec l'Europe, le cheval, tout ça. Donc, il n'y avait pas l'élevage, des élevages. Les protéines venaient, bon, il y avait les lamas, les vigognas, les alpagas. Mais il y avait aussi la chasse se faisait à la partie amazonienne. Et donc, Mais tout ça, ça lui a permis aussi aux puissances européennes d'avoir plus de territoires, de dominer plus de territoires, la navigation mondiale, développement du commerce, développement de l'industrie, et puis un développement du capitalisme industriel, financier. L'Angleterre, la France étaient en tête, puisque l'Espagne a périclité sa domination les siècles, le 19e siècle. Voilà. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation, ici, M. Eduardo Galeano, un intellectuel assez connu, qui a écrit dans son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », il montre une situation, bien que son livre date d'il y a 20 ans, 25 ans, et c'est tout à fait d'actualité, parce qu'il signale que les veines ouvertes de l'Amérique latine, c'est des formes d'exploitation coloniale, aujourd'hui une dépendance économique, il n'y a pas un développement industriel, et fournisseur de matières premières aux pays occidentaux. Et l'arrière-cour des États-Unis, sous la tutelle de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, avec aussi des liens militaires, puisque les officiers des écoles militaires, de l'armée, armée des terres, armée aérienne des différents pays, ils vont à la sortie de leur école avec déjà avec le grade d'officier, ils vont faire des formations, des stages aux États-Unis. Ils sont formés avec l'optique nord-américaine. Quand il y a eu le plan Condor avec plein de dictatures en Amérique latine, on passe au Chili, en Argentine, à les dictatures militaires d'Uruguay, Paraguay, même Brésil, c'était suite à cet lien militaire. Aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont changé la forme, mais cette dépendance militaire continue. Nous, donc, voilà. Et donc, y a des inégalités sociales assez fortes, parce que d'un côté, dans différents pays, il y a des minorités énormément riches qui habitent même, ils ont des maisons à Miami, aux États-Unis, et même en Europe, à Paris. Et puis, il y a des résistances et luttes populaires un peu partout. Et parce que cette exploitation et cette politique, elle est au bénéfice d'une minorité, mais en détriment de la majorité de la population. Voilà pour les veines ouvertes de l'Amérique latine, pour ce 12 octobre 1492, qu'en Espagne, fêté comme les jours de la hispanité, ils englobent dans l'hispanité l'Amérique latine, puisqu'on parle aussi l'espagnol. Et pour nous, de plus en plus, cette idée est contestée, et même il y a des manifestations le 12 octobre, comme il y a eu au Pérou et dans d'autres pays, comme les jours qui commencent l'invasion coloniale de nos territoires. Voilà, jusqu'à cette partie du 12 octobre.
On fait une petite pause musicale et on poursuit de suite après.
Tukaskiwai, amu yasip hanyani, tukaskiwai. Tukahachauru, tukaskiwai, amu yasip hanyani, tukaskiwai. Takpa chanya kina kasti, amu yasip hanyani, tukusini. Takpa chanya kina kasti, amu yasip hanyani, tukusini. Tatana mama nakar.
kacha uru kutas kiwai na tanak mamanaka amu yasip kanyani kutas kiwai.
Voilà, Ronald Bustamante, si vous voulez commenter ce choix de chanson.
Oui, c'est Uka Hachaulu, c'est une langue aïmara, et c'est un peuple qui se trouve dans lequel le peuple aïmara a vu et traversé par des frontières qui ont été créées après. Donc une partie des Aymaras, c'est au Pérou, une autre partie en Bolivie et une autre partie au nord du Chili. Et Uka Hachaulu, entre parenthèses, c'est ma région, à le plateau péruvien. Et Uka Hachaulu, ça veut dire les grands jours arrivent. Et quand on parle de grands jours, c'est les grands jours de notre
indépendance,
notre libération. Voilà. Et bon, maintenant, je voulais évoquer les 80 anniversaires de la création de l'ONU, c'était un événement qui a été réalisé et fêté avec une conférence dans le siège à New York. Et dans cette assemblée, il y a différents représentants du pays, des présidents qui ont intervenu, je voulais. Signaler des choses qui nous ont bien alimentées dans notre conception, dans notre vision du monde aujourd'hui. Et c'est les interventions qu'on valorise, c'est les interventions de M. Petro, président de la Colombie, et de M. Lula, président du Brésil. M. Petro a critiqué aux États-Unis, parce que récemment, les États-Unis, ils ont mis la flotte de la marine militaire face au Venezuela. Et en fait, au Venezuela, il est dans une situation dans laquelle on... Parce que, entre parenthèses, Venezuela, c'est le pays le plus riche en pétrole de toute l'Amérique. Je crois que des richesses importantes pétrolières au niveau mondial. Et les États-Unis, ils ont mis des bateaux militaires, ils survolent avec des avions, donc il y a une menace constante. Et ils se sont permis de tuer des deux petits bateaux qui avaient, à l'intérieur, il y avait des jeunes, de presque 10 monsieur Petro, et ils les ont tués sans... Il n'y avait pas une confrontation militaire ou quelque chose qui justifie que la marine de guerre envoie des missiles contre ces bateaux. Donc il a protesté par rapport à ça. Et quand il a signalé aussi, critiqué la persécution contre les migrants latino-américains, que M. Petro, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les migrants latino-américains, il met de façon militaire, les enchaîner, il les expulse, enchaîner, racer, c'est-à-dire une humiliation. Et ça fait penser aux mesures qui prenaient les invasions nazies à l'époque, même ici en France, dans d'autres pays. Quelle justification pour enchaîner les migrants latino-américains, légaux ou pas légaux, parce que de toute façon, même s'ils sont des papiers, il y a des migrants qui ont été expulsés des États-Unis. Donc M. Petro, il critique cette humiliation qu'ils font. Et principalement, il a critiqué la politique des États-Unis de soutien au génocide contre Gaza. Et contre la bande de Gaza en Palestine. Et puis, il a évoqué aussi la politique états-unienne contre la drogue en Amérique latine, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils s'arborent ça, mais en fait, c'est un prétexte, parce que ça leur permet pour combattre les producteurs de cocaïne, des drogues, etc., ça lui permet d'établir des bases militaires en Amérique latine. Et qu'en fait, si vous voulez contrôler la question de la drogue et d'autres produits chimiques même qui sont plus utilisés aux États-Unis, ben, il fallait qu'il voit aux États-Unis lui-même. Et parce que ça verse une richesse énorme qui circule par les organismes financiers, par les banques. C'est pas un secret tout ça. C'est pas difficile à regarder, à voir, à faire des recherches et trouver qui sont les véritables utilisateurs de ces trafics de drogue de la même façon aux États-Unis que dans le monde, en Europe. Et il a aussi signalé un point de vue, une analyse sur la crise climatique. C'est-à-dire que d'un côté, critique la politique de Trump pour avoir mis à la poubelle tous les pactes, tous les accords signés par les États-Unis pour la question du climat, de sauvegarder, de se préoccuper sur cette crise climatique, que c'est une menace existentielle. Et l'importance des pays latino-américains de travailler sur ça, et en particulier sur la déforestation de l'Amazonie. Et ça, c'est un point commun avec M. Petro. Avec Lula. M. Lula, président du Brésil. Et donc, soulève un problème important, pas seulement pour l'Amérique latine, mais pour le monde. Non ? Et M. Lula, il a défendu, Il a défendu les droits du Brésil à la souveraineté comme un État souverain contre la pression que les États-Unis exercent contre son gouvernement et contre le Brésil. Parce que le Brésil est lié et partie prenante du BRICS, c'est-à-dire de ces groupes d'États. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde et différents pays, beaucoup de pays d'Asie, de l'Afrique et donc le Brésil. Et les droits, la multiple polarité, nous, parce que M. Trump, il voudrait la unipolarité. Polarité, que les États-Unis soient l'État le plus fort qui commande et organise toute l'économie mondiale, bien sûr, à son bénéfice. Et M. Lula, il a aussi critiqué et pris position sur les génocides à Gaza, à la bande de Gaza, c'est la Palestine, et signaler la complicité ouverte des États-Unis par rapport à ces génocides et à la politique qui mène Netanyahou d'Israël. Il défend les droits de la Palestine à être considérés comme un État souverain. Et puis, contre la crise climatique au Brésil, bien, l'année prochaine va se réaliser la COP 30 dans la ville de Belém, au Brésil, dans laquelle ils vont essayer de voir les questions, des mesures importantes comme ce sont sur la question climatique. Il faut se rappeler que les 15e rencontre, c'était à Paris. Il y a eu des accords signés par différents pays qu'aucun pays ne les applique. Non, et donc les États-Unis ils ont dit avec la politique actuelle que ça c'est des histoires, qu'il n'y a pas des liens scientifiques. Il a critiqué, M. Lula aussi, les conseils de sécurité, qu'en défense des droits humains, les conseils de sécurité auraient pu agir et faire pression, même militaire, contre Israël pour arrêter la politique génocide qu'il applique en Palestine. Et donc il fait un appel à la réforme de ces conseils de sécurité parce qu'avec les veto des États-Unis, toutes ces mesures n'ont pas pu se concrétiser. Voilà. Tout ça par rapport à cet événement des Nations Unies et qui montre aussi comment des pays comme la Colombie, le Brésil, le Mexique, l'Uruguay, Venezuela, Cuba essayent de sortir de cette cour arrière qu'on considère les États-Unis et l'Amérique latine. Voilà. J'ai demandé un peu de musique.
Para la mujer peruana, para todos ustedes, una rosa roja. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena,
guairo serrano.
Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción y la herida en cada
encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa
encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto
de nuestros niños,
que sin Navidad crecieron pero conquistarán glorias, que sin Navidad crecieron pero conquistarán glorias. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad. Será color de la rosa, color de felicidad.
Gracias.
Voilà, on musique. Revient avec...
Oui, merci pour cette musique. C'est Walter Humala qui chante... Le nom de la chanson, c'est La Rose Rouge. Et Walter Humala, comme je dis tout à l'heure, c'est un compositeur, un guitariste qui a composé plusieurs chansons, et chansons qui incarnent, qui chantent aux luttes du peuple, aux besoins d'une vie commune, des partages et des coopérations, et qui chantent aussi à toutes ces luttes qui se font contre tout ce qui gêne cet esprit de travail collectif et de libération. Donc, quand il dédie dans les premières paroles de La Rose Rouge, il dédie à la participation, à la lutte des femmes. Il dédie sa chanson à la femme péruvienne. Parce que les femmes, et en particulier, on le voit aujourd'hui, de ça on va parler, ils participent énormément à la... D'un côté et de l'autre, parce que la présidente du Pérou était une femme, mais malheureusement une femme qui s'est mise complètement à pratiquer une politique de l'ultra-droite, et a été limogé il y a quelques jours. Bien, alors, dans cette partie, on va parler sur cette politique d'extraction, de l'extractivisme, qui a été implantée dans différents pays, nous, comme l'Équateur, c'est parti qu'aujourd'hui en Argentine, Équateur, Salvador, et c'était la même chose aussi en Bolivie et au Pérou. Et qu'est-ce que ça signifie ? Signifie l'implantation extractiviste des mines, des pétroles et la déforestation de l'Amazonie, qui se font avec les déplacements des populations, parce que s'il y a des mines, là où il habite la population, il le déplace, malgré qu'il y a des conventions signées par les États, et donc pour l'État péruvien, et que les droits à la consultation préalable, c'est-à-dire que s'il y a une exploitation minière qui doit s'établir, d'abord il faut consulter à la, et informer à la, qu'est-ce que ça signifie, et faire des accords avec la population concernée, parce que les richesses sont dans le sous-sol, et la population habite les sols, et ce qu'ils font jamais. Ou s'il y a des accords, entre guillemets, c'est des faux accords, des accords manipulés et tout ça. Pourquoi il y a une opposition de la population aussi? Parce que toutes ces exploitations minières, pétrolières, ça génère la contamination des eaux, d'air, du sol. Pour pouvoir exporter les concentrés, ils utilisent la lixiviation, des méthodes électroniques, tout ça qui provoque ces contaminations. Et les résidus, ce qui reste, sont pleins d'acide, pleins de tous ces produits. Ils sont déversés dans les rivières, dans les lacs, dans les sources d'eau, et ils avaient détecté qu'au fond des lacs, des lacunes, qui avaient des sources d'eau, il y avait des richesses minières. Donc il fallait assécher toutes ces ressources d'eau. Et bien sûr, c'est contre la population. Parce qu'en plus, ça crée des problèmes dans l'agriculture, dans les pâturages, dans la vie humaine. Et plus de 50% de la population de toutes ces régions ont des métaux lourds dans les sangs. Et ça, c'est prouvé même avec des analyses du même ministère de la Santé, des médecins, qui ont répertorié que plus de 50% y ont de ces métaux lourds, et même un rapporteur des Nations Unies sur la nature, sur les droits à la production des communautés paysannes, ce rapporteur a signalé en 2022 ces problèmes de la contamination et des métaux lourds dans les sangs de la population. Alors, c'est une énorme richesse. Et cette richesse, on le voit, parce que cette politique néolibérale a été implantée depuis 1992 avec M. Fujimori. Donc, il y avait d'une, c'était l'instauration d'une nouvelle constitution, une constitution qui arbore toute la politique néolibérale, d'autres lois, des lois antiterroristes et des lois répressives. Donc on voit depuis cette époque, le ministère d'énergie et mines, dans sa page internet, et ils sont très fiers de montrer que le Pérou est le 12e producteur mondial de cuivre. Le premier producteur latino-américain d'or est le 8e dans le monde. Le premier producteur latino-américain en zinc est le 3e dans le monde. En argent, le 12e producteur mondial. Et ainsi de suite, avec les plombs, les fers, l'étain et tout. Et on voit aussi dans les statistiques publiées par le ministère d'énergie et mines qu'en faisant une comparaison entre 1992 et 2022, il y a eu En or, ils ont multiplié la production minière à 399, presque 400%. En argent, 180%. Zinc, 250. Plomb, 119%. Fer, 654%. Et ainsi de suite. Et donc, il y a une richesse énorme qui sort du pays et que la population, au détriment de la population, parce que ça va pas, cette richesse, elle n'est pas paginée, il n'y a pas la suite des interventions de l'État pour la santé, pour l'éducation, pour les voies de transport, pour les logements et d'autres. En plus de la contamination, et par-dessus la contamination. Et donc, il y a de manière constante, des contestations et des luttes de ces populations qui se font même au niveau national. Non? Et pour ça, l'État et la politique qui gouverne, que c'est instaurée depuis M. Fujimori, donc la fille, M. Fujimori est décédé presque en prison, parce qu'il était responsable des massacres, des génocides, et même stérilisation des femmes pour empêcher qu'ils donnent des enfants qui puissent prendre à lui, une stérilisation. Et donc, M. Fujimori est décédé, il a été libéré avant son décès, mais sa fille et son parti, ils continuent cette politique. Et se sont créés aussi d'autres groupes politiques qui sont liés. Et donc, leur préoccupation centrale, c'est d'une, garantir aux investisseurs qu'ils ont tous les mains libres pour l'exploitation minière, qui auront le maximum des résultats économiques, des bénéfices, non, et d'autres qui seront la garantie aussi que face à la contestation, ils peuvent travailler en tranquillité, tout tranquille. Parce que pour ça, je veux signaler quelques lois qui sont données, par exemple la loi d'actifs, qui appelle actif critique, c'est-à-dire des façons, si on voit un actif critique, normalement, c'est l'actif critique, c'est l'eau. S'il y a une ville, une population, il manque d'eau, c'est un problème qu'il faut, dans lequel l'État devrait intervenir immédiatement pour rétablir l'eau. Mais seulement qu'au lieu de se préoccuper des problèmes d'eau, actif critique appelle les entreprises minières, pétrolières, qui ne doivent pas avoir perturbation. Non? Et donc, ils considèrent que les investissements minières, pétrolières, des grands capitaux, c'est lié de façon étroite à la défense nationale et à la sécurité nationale. Et donc, c'est un développement. Et pour ça, s'il y a la minimum perturbation, donc parce qu'il y a des protestes, des mobilisations, des luttes, blocages des routes, etc., l'État doit intervenir. Et avec cette logique, en 2022 et 2023, il y a eu plus de 70 morts dans ces manifestations, nous, des états d'urgence que des régions ont été l'État a décrété sur différentes régions, et dans lesquelles même Nations Unies et Amnesty International et d'autres organismes, ils ont mis sur la table les cris d'alarme. Et puis, ils ont cette politique, il y a une loi antiterroriste. Et là, ils s'appellent les terrorismes directs et les terrorismes indirects. Nations Unies a critiqué ça aussi. C'est les rapporteurs des Nations Unies, parce qu'on ne peut pas avoir un flou pour considérer terrorisme, presque à volonté. Non. Et donc, ils ont demandé que les lois antiterroristes soient au moins liées aux paramètres, aux conceptions des conseils de sécurité des Nations Unies. Mais ils font tout le contraire. Ils considèrent terrorisme indirect, non, une lutte qui bloque des routes, une conférence sur les sujets, non, et les participants à la conférence aussi sont considérés comme participants à ce terrorisme indirect. Si on colle des affiches, on fait un graffiti dans un mur sur la route, c'est aussi terrorisme indirect. Et donc toute une gamme des actes qui sont considérés comme tels. Et donc ça surprend à personne. Quand les gens qui participent à des luttes de mobilisation sont qualifiés de terroristes. À tel point que maintenant c'est devenu un adjectif. C'est-à-dire, on l'appelle en espagnol « terruqueo ». Terruqueo, ça veut dire que n'importe dans les langages de l'État, de la police ou des personnalités politiques de droite, c'est un mot courant que de qualifier terroriste à n'importe qui. Et puis, il y a une autre loi qui garantit l'impunité des forces armées et de police. C'est-à-dire, si dans les cadres de leur fonction, il y a des morts et des blessés, le personnel ne doit pas être soumis à des procès, etc. Donc, c'est la loi de l'impunité. Il y a des contrats que les entreprises minières, pétrolières, agro-exportatrices peuvent faire avec des polices. C'est-à-dire, une entreprise peut avoir son service encore payé par eux, encore des polices. C'est inadmissible puisque la police ou l'armée est considérée comme des organisations qui sont au service de la population, pas au service des grands capitalistes. Et puis, des lois comme les crimes organisés, contre les crimes organisés, qui considèrent des groupes hostiles. C'est-à-dire, si dans un espace, il y a des organisations qui se forment contre l'exploitation minière, pétrolière et tout ça, c'est des organisations de crimes organisés. Et donc, il y a des procès. Donc, pour ça, il y a aussi des procureurs spéciaux qui font des convocations et tout ça. C'est dans l'optique de neutraliser à la population, pas la crainte, pas la peur. Mais malgré tout ça, en effet, il y a des procès. Et parfois, les gens d'une communauté ils ont des procès, mais à 1000 kilomètres ou à 500 kilomètres en dehors de leur habitat. Et donc, les personnes, les représentants de la population qui protestent doivent se déplacer, faire des déplacements, doivent avoir des moyens économiques pour le faire, pour payer un avocat. Et donc, c'est dans l'optique de la neutralisation. Et on parle de neutralisation parce que Dans cette politique, l'armée, pour regarder les actifs critiques, ils disent la première chose, c'est détecter. Deuxième chose, c'est neutraliser. La troisième, c'est emprisonner. Et la quatrième, c'est éliminer. Et donc, ils ont créé aussi des comités d'autodéfense et développement. C'est-à-dire, parmi la population qui est concernée par l'exploitation minière, pétrolière, dans la population, avec ses agents ou les membres de l'entreprise, ils travaillent pour isoler une partie de la population, les offrir des bénéfices et les organiser comme groupe d'autodéfense, comme un comité d'autodéfense et développement. Et ces groupes sont armés par l'entreprise ou par la police. Et ces groupes sont aussi, par la loi, dépendants de la police et de l'armée. Donc, on est face à des groupes paramilitaires, des groupes qui nous font penser à l'époque fasciste, à tous ces groupes qui s'est formés dans différents pays pour collaborer, participer, même avec des armes. Alors, tout ça, cette année, et bon, c'est j'ai évoqué les lois principales qui sont en place, et donc il y a un nouveau phénomène, parce que ces comités d'autodéfense dont j'ai parlé, il y avait aussi dans les villes, parce qu'il y a sous les déguisements des syndicats des constructions, c'est-à-dire des constructions civiles, c'est-à-dire c'était des groupes qui faisaient pression contre les travailleurs assez syndicalisés, tout ça qui protestaient parce qu'il y avait pas des salaires qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, ça fait une explosion qui s'appelle les sicarias, c'est-à-dire des tueurs à gages. Et là, c'est un point tellement important parce que depuis 2022, il y a plus de 5800 personnes qui ont été tuées. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, un petit entrepreneur, parce que les transports là-bas, c'est fait par des gens qui ont un petit capital, une petite ressource, ils achètent un petit bus, un taxi, pour les déplacements des gens. Et donc, ou sinon d'autres personnes qui ont une petite entreprise pour les textiles, pour l'artisanat et tout ça. Et donc, ces groupes paramilitaires qui se forment, ils vont exiger une rançon qu'ils doivent payer à l'avance et de façon continue, tous les mois, tous les 2 mois. Et s'ils ne payent pas, ils utilisent des armes, ils les tuent. Devant tout le monde. Alors, et qu'est-ce qui fait l'État ? L'État passif face à la situation. Tous les jours, on le voit même en déclaration par les réseaux sociaux, et les gens disent que ça fait peur maintenant de sortir, d'aller au travail, parce qu'on ne sait pas si on va revenir. Et c'est un problème crucial. Et il y a quelques jours, et ça, je voulais signaler parce que c'est quelque chose d'important. Il y a au moins 2-3 semaines, les gens qui travaillent dans les transports, taxistes, des petits bus, des transports et tout ça, plus les jeunes, et là c'est nouveau. Il s'appelle la génération Z, ou la ginseng, je sais pas, c'est un phénomène dans lequel participent des jeunes des 13, 14, 20, 25 ans, 30 ans, une génération qui ont la formation maintenant avec une information plus réelle, et une information de ce qui se passe dans les pays, et tout se mesure par les réseaux sociaux. Et donc, il y a une mobilisation horizontale, il n'y a pas un parti qui commande, etc. Et donc, ils se sont liés et ils ont fait des manifestations tellement grandes, tellement fortes, que l'Assemblée nationale, dans laquelle siègent, ils ont une majorité des députés qui sont de la droite, ultra-droite, Fujimori, de tout ça, de tout un groupe de droite, qui sont ceux qui produisent justement toutes ces lois que je viens d'évoquer. Ils ont vu comme que eux, ils étaient en danger. Parce que cette manifestation qui était énorme, des milliers de personnes, ils voulaient prendre le l'Assemblée nationale, expulser les parlementaires. Et donc, ils utilisaient la police, ils ont tous les moyens militaires pour éviter ça. Et ils se sont dépêchés il y a quelques jours, non, la nuit du 10, de limoger la présidente. Alors que la présidente, elle ne faisait que réciter, dire et défendre la politique de cette Assemblée nationale. Et il faut dire aussi que le président élu démocratiquement et qui c'était un instituteur issu des zones rurales, Monsieur Castillo, il y a eu un coup d'État légal parce que l'Assemblée nationale l'avait limogé la nuit du 7 décembre 2022. Et parce que Monsieur Castillo, Pedro Castillo, voyant tout ce harcèlement qui avait depuis son élection, et il s'est dirigé à la nation signalant que c'était nécessaire de fermer cette Assemblée nationale et d'appeler à une nouvelle d'appeler aux élections pour des représentants puissent élire, faire et réaliser une nouvelle constitution et abroger toutes ces lois qui sont contre la population. Donc ils ont considéré ça comme quelque chose, comme un coup d'État donné par le président Pedro Castillo. Ils l'ont limogé. Il est en prison depuis cette époque. Et sans que jusqu'à aujourd'hui, il peine parce qu'il accuse d'avoir voulu faire un coup d'État, des actions subversives, mais il ne montre pas les éléments qui puissent réaffirmer. Et donc, M. Pedro Castillo a été substitué par cette dame qui s'appelle Dina Boluarte, qui était sa vice-présidente. C'était un premier président de gauche qui avait le Pérou. Et donc la vice-présidente était censée partager aussi ses principes, cette vision du pays qui défendait M. Pedro Castillo. Mais M. Dina Boluarte, apparemment, c'était déjà négocié à l'avance, depuis depuis qu'elle était considérée comme présidente du pays, il s'est attelé à faire la politique des droites, d'ultra-droite, du Parlement, et comme ces manifestations fortes voulaient un changement de politique qui se respecte les droits fondamentaux de la nation et des personnes, la liberté de penser, la liberté de gérer ses ressources, la liberté de pouvoir, les droits à une production réellement nationale, pas pour les multinationales, tout ça, et voyant que c'était un péril, ils l'ont limogé la nuit, et c'était vraiment quelque chose... qui a pris par surprise aux gens, parce que l'Assemblée nationale, à 22h30, ils ont voté l'accord pour la limoger. Et donc, d'après la Constitution, ils ne pouvaient pas la limoger sans que la présidente puisse se présenter à faire sa défense. Donc, à 10h30 ou 22h30, ils appellent la présidente pour que, dans l'immédiat, se présente au Parlement pour faire sa défense. Et peut-être elle a répondu que, bon, d'abord, d'ailleurs, c'est la réponse qui donne les parlementaires de l'Assemblée nationale. Ils disent qu'elle n'a pas voulu se présenter. Bon. Et donc, comme il y avait cette réponse, même pas écrite, rien, ben, ils l'ont limogé, tout simplement. Ils ont élu un nouveau président qui n'a même pas une semaine et qui sort justement de ses rangs et que lui-même, il a des procès des viols, des procès d'avoir des trafics, des biens publics, tout ça. Il y a une instabilité. Et la population se prépare, donc aujourd'hui c'est les 14, demain c'est les 15, a été signalé le 15 octobre comme le jour des mobilisations générales dans lesquelles va participer la génération Z. J'insiste sur la génération Z parce que c'est un contingent des jeunes, mais énorme. C'est la jeunesse qui veut pas de ces pays parce qu'ils sont les plus touchés de cette situation, la question des santé, la question des travail, l'avenir et tout ça. C'est complètement sain d'avoir cette participation. Et il y a une instabilité politique. Moi-même, je me demande comment, ici à la distance, les collectifs péruviens, donc notre association, ils soutiennent cette mobilisation, mais la mobilisation s'est fait là-bas. Espérons qu'il n'y ait pas de bandes de sang encore et qu'il puisse avoir une possibilité d'une nouvelle constitution, d'une assemblée constituante pour mettre vraiment en place des nouvelles valeurs, une nouvelle politique économique, sociale et politique de fonctionnement de l'État. Comme dit M. Petro, M. Lula, nous, en pleine souveraineté, sans se mettre au service des groupes multinationaux qui ne font que extraire les richesses du Pérou.
Voilà. Merci Ronald Bustamante. Je crois qu'on a largement dépassé l'heure. On va s'arrêter sur cet appel à mobilisation du 15 octobre.
Oui, demain.
Merci.
Et merci Odile et merci à Radio Mistral pour nous avoir donné cette
possibilité. Vous avez pu exprimer tout ce que vous aviez envie de partager avec les auditeurs.
Merci.
Voilà. Au revoir.
Merci, au revoir.